France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ça s'appelle donc une force de réassurance, cette fameuse force qui serait ou qui sera déployée en Ukraine une fois le cessez-le-feu acté. La coalition des volontaires, 31 pays à Paris aujourd'hui, l'a mis dans ses conclusions. Emmanuel Macron a beaucoup insisté, une force dont les deux têtes de pont sont les Britanniques et nous, donc les Français. Les deux pays vont d'ailleurs envoyer leur chef d'état-major pour discuter avec l'armée ukrainienne. Mais on n'en sait pas beaucoup plus, à part donc nous et les Anglais, qui participent, on sait bien. Emmanuel Macron d'ailleurs l'a redit, que les Européens ne sont pas tous sur la même ligne. Qui participe donc pour se positionner où ? Est-ce qu'on parle de terre, de mer ou d'air ? Avec quelle responsabilité réellement ? Là aussi, ça reste à définir. Il y a beaucoup de questions, pas encore de réponses précises. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky juste après la conférence de presse du président français. Et c'est là-dessus aussi que nous allons nous attarder ce soir. Qu'est-ce qui se passe avec une telle force, quelle que soit sa forme d'ailleurs, si Vladimir Poutine l'attaque ou s'il rompt le cessez-le-feu ? Nous faisons partie de ces pays qui n'ont rien oublié et pour cause de notre inaction, notre impuissance en tout cas, à Srebrenica, au Rwanda, il y en a eu d'autres. Alors est-ce qu'on risque aussi une répétition de ces expériences-là ? Le président français a aussi rappelé que les États-Unis étaient un allié fiable, une manière peut-être de leur dire « vous vous occupez de la paix, nous on s'occupe de l'après ». Une manière aussi de dire à Donald Trump, si tu n'obtiens rien de Moscou, il faudra bien en tirer des conclusions. La France semble toujours espérer, et l'Ukraine sans doute un peu évidemment aussi, que les États-Unis reprendront leur place aux côtés de l'Ukraine. Est-ce que tout cela vraiment est parmi ce que l'on voit se dessiner sur le terrain ? C'est le téléphone sonne ce soir les amis, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Augustin, vous êtes au Havre et vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute Augustin.
Eh bien, je rebondis sur votre introduction pour dire justement, en voyant cette photo aujourd'hui de cette trentaine de chefs d'État européens et d'ailleurs aussi, me dire, est-ce qu'on fait vraiment le poids face à la Russie de Vladimir Poutine et à ses menaces, surtout à un moment où les États-Unis semblent nous lâcher de plus en plus ? Moi, je suis très heureux de voir qu'il y a un réveil des Européens, même si on ne sait pas encore trop quelle forme ça prendra. Mais étant jeune, et aujourd'hui j'étudie à Maastricht sur les affaires européennes justement, et donc je suis très fier de voir ce réveil des Européens, mais malheureusement, je me demande si ça va bien suffire.
Eh bien, merci pour votre question, Augustin, et pour cette entrée en matière dans le téléphone sonne pour discuter ensemble. Il y a Sylvie Matelli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de l'Institut Jacques Delors et Guillaume Ancel, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien officier chroniqueur de guerre, vous avez écrit notamment là tout récemment, petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre aux éditions autrement. Je vais me tourner vers vous, Sylvie Matelli, d'abord pour la question d'Augustin, puisque c'est vous la directrice de l'Institut Jacques Delors. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a vu la photo. Est-ce que la photo est fixe ? Est-ce que la photo est floue dans ce qu'on a vu aujourd'hui ?
Alors, c'est difficile à dire aujourd'hui, parce qu'on a finalement assez peu d'informations. La question, je pourrais la poser différemment. Est-ce qu'on aurait parié sur la résistance de l'Ukraine lorsque la Russie envahit l'Ukraine ? Et en réalité, probablement pas. Et d'ailleurs, on n'avait pas parié, et puis finalement, c'est arrivé.
Donc, ce que vous dites, c'est est-ce qu'on parie sur l'Europe ? On n'avait pas fait avant, faisons-le aujourd'hui.
C'est en fait qu'à un moment donné, quand on n'a pas le choix, on est bien obligé de se débrouiller et de résister. Mais ce n'est pas tellement la question qui est posée aujourd'hui, puisque l'idée c'est d'avoir des forces qui vont permettre de maintenir et d'assurer le maintien du cessez-le-feu, même si en réalité on sait bien qu'il faut que ces forces soient crédibles. Si on met des forces dont Poutine sait qu'il ne se passera rien et qu'elles ne réagiront pas s'il venait à y avoir une rupture du cessez-le-feu de son côté, eh bien il n'hésitera pas. Donc c'est toute la difficulté, c'est d'apparaître suffisamment dissuasif pour qu'il n'y ait pas d'intervention.
Mais est-ce qu'on prend le chemin d'apparaître suffisamment dissuasif pour ça ? On sait bien que les Italiens n'y vont pas, on sait que les Espagnols n'y vont pas. Alors on peut aussi se dire que le centre de gravité a bougé en Europe désormais, plutôt du côté scandinave, du côté balte, du côté évidemment de ceux qui ont une frontière avec la Russie. Mais on sait aussi, par exemple, les Polonais n'y vont pas parce qu'ils estiment que leurs forces, il faut les garder le long de la frontière. Donc il ne faudrait pas qu'on soit deux, quoi. Est-ce qu'on aurait l'air de quoi ?
Oui, tout à fait, c'est la question. Et en même temps, quand vous voyez les difficultés aujourd'hui de la Russie, quand vous voyez également les difficultés économiques que commence à amorcer ce pays après trois années de conflit, il est évident qu'il peut y avoir aussi un intérêt du côté de la Russie à préserver le cessez-le-feu pour reconstruire son économie ou en tout cas pour relancer son système économique. Donc c'est encore une fois très difficile parce que il n'y a pas eu beaucoup de rationalité dans l'approche de et dans l'analyse de Vladimir Poutine lorsqu'il envahit l'Ukraine, en tout cas pas la rationalité que nous lui connaissons, et on peut se questionner sur ses intentions.
Guillaume Ancel, deux questions pour l'ancien officier que vous êtes. D'abord, peut-être la bouteille à moitié pleine avant, peut-être à moitié vide sur les forces qu'on peut trouver et comment sur le terrain. Quand il y a quand même deux états-majors, français et britanniques, les deux forces nucléaires de l'Europe au sens territorial du terme, parce qu'on sait bien que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union, et qui vont en Ukraine, qu'est-ce que ça dit quand même? Ça dit quelque chose de fort, ça, ou pas?
Oui, ça dit quelque chose de fort. D'abord, il faut se rappeler, pour répondre à Augustin, que l'armée russe, paradoxalement, n'a jamais été aussi faible que maintenant. Parce qu'après 3 années de guerre, elle était saurée. La Russie a consommé une armée complète dans cette guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'on imagine que, on estime que le corps expéditionnaire russe contre l'Ukraine est de l'ordre de 500 000 soldats. Ils ont tué et blessé plus de 600 000 soldats en 3 années de guerre. Donc c'est une armée qui est essorée, qui est juste un peu au-dessus de l'armée ukrainienne, qui est elle-même est épuisée par ces 3 années de guerre. Mais donc aujourd'hui, l'armée russe n'est absolument pas puissante et c'est sans doute le meilleur moment pour la faire basculer. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir cette réticence que nous avons à nous battre pour défendre la paix face à un ennemi qui est d'une faiblesse inouïe. Quand il s'agit des armées européennes...
Quand vous dites « nous », pardon, je vous interromps, Guillaume Ancel, quand vous dites « nous », ça veut dire armer l'Ukraine très 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 vite pour que ce soit elle qui prenne cet avantage-là ou pas?
Non, l'armée ukrainienne, il faut continuer à l'armée pour qu'elle puisse continuer à résister. Mais elle n'a pas la taille nécessaire par rapport à la Russie, qui est juste 5 fois plus importante en termes de nombre de personnes. Et donc là, les armées européennes peuvent jouer un rôle, mais leur grande faiblesse, les armées européennes, ça n'est ni leur budget, ni leur matériel. C'est le fait qu'elles sont 30 armées différentes. Je vais donner juste une image simple. L'armée américaine, aujourd'hui, est considérée comme la première armée du monde. On ne la considérerait pas de la même manière si elle avait 50 armées différentes, parce qu'elle a 50 États différents, et je ne compte pas le Canada. Donc en fait, ce qui fait la force de l'armée américaine, c'est son union. Ce qui fait la fragilité des armées européennes, c'est qu'on parle à 30 chefs d'État-major différents.
Si je vous suis bien quand même, Guillaume Ancel, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous pensez qu'il faudrait que nous intervenions, quel que soit le « nous » d'ailleurs, en termes de nombre, non pas seulement pour surveiller un cessez-le-feu, mais pour repousser un peu plus les Russes?
C'est clair que si nous étions intervenus, quand les Américains nous ont prévenus 3 mois avant le début de l'invasion, si une force européenne était intervenue en Ukraine, simplement le fait d'être là, il est peu probable que Poutine ait tenté sa chance contre une armée qui, en fait, était beaucoup plus importante que la sienne. Je rappelle juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, les budgets des 27 pays de l'Union européenne sont déjà 3,5 fois supérieurs au budget de la défense russe. Donc, en réalité, on se bat contre notre propre peur aujourd'hui.
Le fait d'être là, vous dites, je voudrais votre avis là-dessus, Sylvie Matelli, est-ce que vous avez le sentiment que le fait d'être là, donc si cette force existe, c'est une force post-cessez-le-feu, est-ce que le fait d'être là vous semble suffisant, est une forme de dissuasion quand on est un Vladimir Poutine ou pas?
Je crois que au-delà de ça, aujourd'hui, c'est très symbolique en réalité, puisqu'on conditionne le fait de déployer une force à un cessez-le-feu, et on en est loin, et deuxièmement, à la protection américaine. Donc en fait, on envoie des messages. On envoie un message à Poutine en disant « tu nous as
cru ». Pardon, je vous interromps, à la protection américaine. Ça veut dire que pour vous, on n'envoie que si on a la protection américaine.
Bah, visiblement,
parce que je n'ai pas tout à fait entendu ça chez Emmanuel Macron, mais on n'a peut-être pas compris la même chose.
En tout cas, que les Américains restaient un allié fiable. Okay. Et ce signal, il leur est aussi envoyé, de dire « c'est nous qui allons dépenser de l'argent, c'est nous qui allons propositionner des forces, mais par contre, pour que nous soyons crédibles, nous avons besoin que vous soyez quand même là, encore là, pas sur le terrain, mais là, c'est-à-dire avec dans l'OTAN et en acceptant en vous engageant à respecter l'article 5 si jamais il y avait le moindre souci. Donc ça, c'est un élément très important. C'est également un signal qui est envoyé à Vladimir Poutine, de lui dire « tu nous as cru faibles, incapables de nous positionner ». On peut y aller, on est prêt à y aller.
Alors, on va revenir à la fois sur l'allié fiable et sur l'article 5, mais je voudrais vous poser aussi la question à vous, Guillaume Ancel, avant de retourner au standard. Le fait d'être là, est-ce que ça joue? Parce que moi, si j'étais Vladimir Poutine, je mettrais la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud. Donc, je briserais le cessez-le-feu pour voir comment ces forces-là répondent, si d'aventure elles sont là.
Bien sûr, toute la question est la détermination. Ah oui. Si c'est pour se retrouver dans la situation que nous avons connue dans les années 90, dans ces missions justement de maintien de la paix.
Exactement, je pense à l'ex-Yougoslavie
de
notamment.
De ne riposter contre personne. Eh bien, il ne faut surtout pas y aller, parce que la première chose que va tester la Russie de Poutine, bien sûr, c'est notre détermination à se battre. Si on montre qu'on est prêt à se battre, il se retirera immédiatement. De toute façon, Poutine ne connaît que la force. Or, jusqu'ici, nous ne lui avons jamais montré de force, Trump y compris.
Donc ça veut dire qu'il faut riposter. Si d'aventure, si on en était là, on est un peu en train de faire de la politique fiction, parce que vous avez raison, Sylvie Matelli, le déploiement potentiel de cette force, c'est en cas de cessez-le-feu, effectivement, on en est très loin. Mais ce que vous dites, c'est qu'il faudra riposter.
Bien sûr, sinon, il faudra frapper très fort dès le départ, comme l'ont fait les Turcs pendant que des avions de, russes étaient rentrés sur leur zone aérienne. Ils ont été abattus immédiatement. Et c'est étonnant parce que la Russie n'a même plus essayé après. La Russie de Poutine n'entend que la force. Il faut faire une démonstration de force pour qu'il s'arrête, pas une démonstration de diplomatie.
Laurent est avec nous. Bonsoir, Laurent.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Laurent.
Alors voilà, moi je suis inquiet dans le sens où Monsieur Poutine, je crois qu'on ne peut pas lui faire confiance. Comme vous dites, c'est quelqu'un qui ne connaît que la force. Et je crains qu'en envoyant des troupes pour préserver la paix, en fait, ça génère des incidents avec les troupes russes, et tout ça permettant après une escalade possible, parce que lui, je pense qu'il ne s'arrêtera que quand il aura atteint son objectif, c'est-à-dire soit reconquérir l'Ukraine, soit faire sa grande Russie, heureusement. Et voilà, donc je suis pas sûr que ce soit une excellente idée, mais bon, malheureusement, je suis pas président. Heureusement, d'ailleurs.
Malheureusement, on sait pas, oui, j'allais vous dire, Laurent, enfin, c'est comme vous voulez.
Et après, bon, puis en plus, j'ai pas confiance dans, non plus dans notre président, qui, je crois, a un rêve de chef de guerre, et il pourrait très bien se complaire dans ce genre de choses, voilà.
Laurent, merci pour votre intervention. La crainte de Laurent, au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, Guillaume Ancel, c'est vraiment la peur que Vladimir Poutine joue avec nous, et que ça serve à ça, en fait, cette forme d'intervention au final.
Bien sûr, mais il faut qu'on s'interroge aussi sur cette espèce de frilosité qu'on a depuis 3 décennies, depuis qu'on s'est persuadé que nous étions exemptés de guerre en Europe. Je vais prendre le cas des États-Unis, qui est un pays qui ne connaît pas de guerre sur son territoire depuis la fin du 19e siècle. Eh bien, les États-Unis sont intervenus en permanence. Et du coup, pour eux, dans la culture de leur société, c'est normal d'intervenir dès lors que leurs intérêts sont en jeu. Que ce soit en Corée du Sud, au Japon, au Proche-Orient, hein, ça ne leur pose aucun problème. Et nous, on a une espèce de peur panique de se battre, alors qu'on a un outil militaire, pardon, on ne va pas aller mobiliser nos enfants, nos frères et nos sœurs. On a une armée professionnelle dans chaque pays européen qui est tout à fait capable de se battre. Ce qui nous neutralise le plus aujourd'hui, c'est la peur que vient très bien d'exprimer cet auditeur, où ça risque de mal se passer. Mais la guerre, ça consiste à s'imposer par la force. Or, aujourd'hui, le pouvoir de Poutine repose essentiellement sur la peur qu'il inspire, bien plus que sur ses forces militaires.
Sauf que la différence entre la Russie et nous, Sylvie Matelli, ce sont les opinions publiques. Les opinions publiques européennes, là, sont favorables à continuer à soutenir l'Ukraine, et encore qu'il commence à y avoir des questions qui se posent sur le prix que ça coûte, etc., au regard de nos situations budgétaires. Et puis, lorsqu'on passe à une force, il y a une espèce de mot tabou qui est le mot troupe, où effectivement, Guillaume Ancel a raison, on n'est pas en train de parler d'envoyer nos pères, nos frères et nos cousins, mais ce mot-là résonne. Est-ce qu'on est vraiment sûr de l'envie morale, en fait, d'entrer dans ce genre de considération quand on est européen aujourd'hui?
On est sûr de rien, mais ce qu'on perçoit très nettement, et la question de votre auditeur était symptomatique et assez peu représentatif d'ailleurs de l'état d'esprit français en général, c'est que les Européens ont très peur. Les Européens se sont habitués à vivre en paix, à vivre sur un continent qui était protégé, et il faut le rappeler, protégé par les États-Unis. À l'heure où les États-Unis se détournent de l'Europe, et c'est pas juste Donald Trump, on en parle souvent, c'est Barack Obama avait déjà initié ce mouvement, et ce mouvement se poursuivra parce que les États-Unis considèrent que leurs intérêts stratégiques sont ailleurs, il faut que l'on arrive à se renforcer, non seulement à renforcer notre défense, à réarmer l'Europe, comme l'a proposé la Commission européenne et comme ça a été validé par l'ensemble des États de l'Union européenne, mais aussi renforcer notre capacité à penser la guerre, ou en tout cas à penser notre défense pour préserver notre paix. Il faut bien comprendre que c'est grâce à l'engagement des États-Unis que pendant toutes ces décennies, nous avons été protégés. Mmh. C'est pas du tout qu'il n'y avait pas de guerre ailleurs, on s'est raconté une histoire en réalité.
Après, Guillaume Ancel, comment on l'imagine cette... j'ai même oublié son nom désormais, parce que le nom...
La force de réassurance.
Merci, la force de réassurance. Est-ce que une force de l'ONU est une force de réassurance? On y mettrait peut-être des soldats qui viendraient de toutes les nationalités européennes, mais est-ce qu'on appelle ça une force de réassurance?
Non, et...
Est-ce que l'OSCE est une force de réassurance? Enfin, ou est-ce que c'est que nous, en fait, avec l'écusson français, britannique ou autre chose?
La question est le mandat, et le président Macron l'a précisé parce qu'ils ont eu un accord pendant ce congrès de la coalition des volontaires. C'est le fait qu'en aucun cas on allait envoyer une force de maintien de la paix qui serait soi-disant neutre et qui quelque part traiterait de la même manière les belligérants. Il n'en est pas question. Pardon, mais il faut quand même rappeler que c'est l'Ukraine qui a été agressée par la Russie. Même si l'entourage de Donald Trump et Trump lui-même essayent d'inverser souvent maintenant le narratif en expliquant que en gros, la Russie a été agressée par l'Ukraine. Pas du tout. Et donc cette force-là, c'est bien une force de réassurance dans le sens où elle devra assurer les Ukrainiens que personne ne pourra violer le cessez-le-feu sans se heurter à cette force.
Ce que ne pourraient pas faire, effectivement, potentiellement des casques bleus, mais est-ce que, de toute façon, un envoi de casques bleus est soumis à New York? Et on sait très bien que la réponse serait non. C'est aussi ça la raison, non, Sylvie Matelli?
Bah oui, clairement. Clairement, puisque la Russie a encore un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans les éléments que je donnais tout à l'heure, j'en ai oublié un, comme quoi on était encore loin de ça et comme quoi c'était plus de l'ordre du signal, même si je pense que dans la tête d'Emmanuel Macron et de nos amis britanniques, il y a la compréhension que peut-être il sera nécessaire d'envoyer des forces. Mais rappelez-vous, dès le début des pourparlers entre Vladimir Poutine et Donald Trump, Vladimir Poutine avait expliqué qu'il était exclu qu'il accepte un cessez-le-feu si des forces de l'OTAN étaient déployées en Ukraine. Donc vous voyez, on envoie un signal à Donald Trump en disant « Nous, on est prêts à la paix. On est prêt à ce cessez-le-feu. On est prêt à intervenir et à se positionner pour assurer le maintien de ce cessez-le-feu. La balle est maintenant dans le camp de Vladimir Poutine. »
Alors, la question que je me pose, moi, c'est si le discours aujourd'hui des 31, donc d'Emmanuel Macron, mais au fond celui de Volodymyr Zelensky derrière, est-ce que c'est la balle est dans le camp de Poutine ou plutôt la balle est dans le camp des Américains? Parce qu'on a bien senti les uns comme les autres. On entend Emmanuel Macron dire les Américains sont toujours nos alliés, mais s'ils se rendent compte que Poutine ne veut pas de cesser le feu, il faudra bien en tirer des conclusions. C'est aussi ce que fait Volodymyr Zelensky. Vous la mettez où la balle, vous, Guillaume Ancel?
Clairement, du côté des Américains, on se rappelle que les négociations qui ont lieu en Arabie Saoudite en début de semaine n'ont jamais permis aux Ukrainiens de discuter avec les Russes. Mm. Pour l'instant, il n'y a que Donald Trump et son équipe qui discutent avec les Russes. Or, la balle est dans le camp des Russes et des Américains. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens, forcés, on se souvient de cet épisode lamentable à Washington où Zelensky était humilié devant les caméras par Donald Trump, ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter les conditions que voulait imposer Donald Trump. Ces conditions, c'est un cessez-le-feu immédiat pendant 30 jours pour après voir ce qu'on pourrait éventuellement organiser comme accord de paix. Mais pour l'instant, très clairement, ce sont les Russes qui le refusent, puisque à chaque accord, que ce soit contre les infrastructures énergétiques ou en mer Noire, il n'y a pas la guerre. La guerre, elle est sur le terrain. La guerre, elle est sur les bombardements quotidiens. Eh bien, en fait, Poutine botte en touche et Trump ne sait pas réellement comment réagir. Et on voit bien qu'en plus, Trump a une fragilité sur ce sujet. C'est son électorat. Mmh. Son électorat républicain qui comprend mal pourquoi est-ce qu'il veut faire la part belle à une Russie de Poutine qui est l'héritière de l'URSS contre lesquelles les États-Unis se sont battus pendant des décennies.
Est-ce qu'on est absolument sûr qu'il y a une vraie forme de négociation en ce moment, en fait? Enfin, on s'est posé la question de savoir si l'engueulade dans le bureau ovale n'était pas aussi cousue de fil blanc parce qu'il fallait envoyer ce message-là, il fallait dire ça à ce moment-là. Pardon, mais est-ce qu'on est absolument sûr qu'il se passe des choses en ce moment entre les Américains et les Russes et que chacun a l'intention qu'il en sorte quelque chose? Non, mais sincèrement.
Oui, la question qui s'est posée, c'est est-ce que la feuille de route n'est pas déjà toute
mais
tracée?
Mais c'est exactement ça.
Les négociations,
c'était ça la
les
question.
Les négociations pliées. Mais justement, je crois que ce qu'essaient de jouer Zelensky et les Européens au travers de tous les sommets organisés, de toutes les réunions organisées ces dernières semaines, c'est de dire mais nous aussi, on peut être partie de la solution. Et au fond, jusque-là, ça a plutôt conduit Donald Trump à modérer quelque peu ses ardeurs. Et s'il y avait une feuille de route, elle semble, dans ce contexte-là, plus difficile à imposer que ne l'aurait imaginé Donald Trump au départ.
Est-ce qu'on imagine un Donald Trump, Guillaume Ancel, qui se réalignerait, agacé par les Russes, et qui déciderait finalement de repartir de l'autre côté ? Ou est-ce qu'on rêve totalement, là ?
Non, c'est ce qu'il est en train de faire sous la table.
Vous croyez ?
Oui. Alors qu'il a vraiment mis une pression maximale sur les Ukrainiens, et on lui a beaucoup reproché de n'avoir obligé la Russie à aucune concession. Depuis l'affaire des négociations en Arabie Saoudite, qui en réalité n'ont absolument rien donné, Donald Trump a donné l'ordre à l'armée américaine de reprendre les livraisons d'armes aux Ukrainiens, alors qu'il les avait suspendues depuis 15 jours.
Ainsi que les renseignements d'ailleurs.
Les renseignements, mais plus. Depuis plusieurs jours, les Ukrainiens sont autorisés à utiliser des munitions américaines très performantes pour frapper des unités russes importantes sur le territoire russe. Mmh. Et ça, c'est une manière de Trump de garder le sourire en face de Poutine, qui est manifestement en train de le faire lambiner, mais sous la table de lui donner quelques coups de pied pour le rappeler que c'est une négociation.
Voici Jean-Louis qui nous attend. Bonsoir Jean-Louis.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir France Inter.
On vous écoute Jean-Louis.
Oui, alors je voulais déjà, conforter l'officier supérieur, je suis désolé, j'ai oublié votre grade, qui parle à l'antenne qui est interviewée ce soir.
C'est pour vous, Guillaume Ancel.
Tout à fait, ok. Par rapport à vos propos, parce qu'en fait, moi je pense personnellement, ce que je disais tout à l'heure aux techniciens, que nous avons perdu 2 ans et demi. 2 ans et demi, on aurait pu intervenir en réalité dès le mois d'avril 2022, c'est-à-dire en fait quelques semaines après le début de la première triple grande contre-offensive des Ukrainiens qui ont repoussé les Russes vers Kharkiv, au nord de Kiev, et puis ensuite vers la zone de Mykolaïev-Kherson. Et à ce moment-là, il y avait déjà énormément de monde sur place. Moi, j'étais personnellement sur place pour des raisons à la fois humanitaires et de soutien, entre guillemets, militaire, à titre personnel. Et il y avait énormément de gens. Il y avait la 82e Airborne qui était là. On aurait tout à fait pu, en fait, geler la situation. Il n'était pas question d'aller se battre contre les Russes, mais au moins d'être présent sur le territoire ukrainien pour, en fait, geler la situation, la vitrifier. Et Poutine n'aurait rien pu faire, car il n'a, de toute manière, il n'est jamais intervenu sur la totalité des lignes rouges qu'il estimait et sur lesquelles finalement il n'est pas intervenu. Mais... première chose que je voudrais dire. Deuxième chose et une dernière, il faut que les Européens aient confiance en eux. Nous sommes, 450 millions d'habitants, nous sommes une des premières puissances économiques du monde et en fait nous passons notre temps à nous plaindre et à avoir peur des autres. Alors effectivement, comme le disait tout à l'heure Monsieur Ancel, la Russie aujourd'hui est exsangue et il ne faut pas l'oublier, elle ne vient que par la Chine.
Merci beaucoup pour votre intervention, Jean-Louis. Guillaume Ancel, on va pas refaire la guerre. Mais il y a encore une fois un facteur, alors je vois bien l'enthousiasme de Jean-Louis, mais il y a un facteur que chez nous les Européens, qui n'existe pas encore une fois chez les Russes, une opinion publique. Jamais, jamais, au grand jamais, on aurait pu au mois d'avril 2022 d'essayer d'envoyer des troupes, y compris un bout d'armée professionnelle. On est d'accord avec ça.
On se souvient qu'il y a un an, quand le président Macron a esquissé l'idée.
J'ai envie de dire heureusement d'ailleurs, non, peut-être en mars 2022. Enfin, voyez,
On se souvient que quand Macron a esquissé l'idée qu'à un moment, il y aurait peut-être des troupes européennes qui devraient partir en Ukraine, volée de bois vert de tous les pays européens qui l'ont dit, mais non, il n'y en est pas question. Et puis là, il y a un mois, quand il a dit qu'il faudra qu'on construise une force d'intervention, on sent que les pays commencent à dire, ah ben oui, il faut peut-être qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, clairement, à Paris, il y a plus de 10 pays dans les 32 qui étaient là, qui ont dit oui, qui ont dit bien sûr qu'on sera obligé de mettre en place une force d'intervention. Ce qui est terrible, c'est de penser que si on avait été en avance sur le sujet, l'intervention, on aurait pu la faire avant le début de la guerre et l'empêcher. Mmh. Et c'est ça qui fait que quand on perd cette culture militaire, c'est le cas de notre société, où il n'y a plus que 3% des gens en France qui ont une culture militaire, eh bien on n'est plus capable d'empêcher la guerre parce qu'on est persuadé qu'on en est exempté.
Pardon, allez-y Sylvie Mathilde.
La situation est quand même un petit peu différente. C'est-à-dire là, on serait intervenu dans une guerre contre un adversaire, et c'est un pays, ce sont des pays de l'OTAN ou des forces de l'OTAN qui seraient intervenus. Donc il y avait quand même cette crainte de l'escalade. Il n'empêche que les leçons de cette crainte de l'escalade ont été tirées et qu'on se dit bien aujourd'hui que face à Vladimir Poutine, il faut pouvoir afficher une certaine détermination.
Oui, sauf que je me souviens très bien qu'à l'époque, ce que disaient les Ukrainiens, c'était « vous nous promettez des armes, quand est-ce qu'on les voit arriver ?» C'était aussi ça. Ce qu'on a beaucoup dit de l'Europe à une période, c'est « ça va pas assez vite, c'est trop lent ». Il y a eu un moment où les Ukrainiens étaient à court de munitions. Enfin, c'était ça aussi. Ce qui se passait sur le terrain. Donc c'était pas tant une question d'hommes qu'une question de tenir les promesses que l'Ukraine faisait, non ? Il y a eu quand même beaucoup de ça.
Que l'Europe faisait, c'est compliqué, parce que les Ukrainiens ont beaucoup réclamé d'armes et de munitions. En ce moment, ils n'en manquent pas, ils manquent de bras. parce qu'ils ont fait un choix politique sévère, qui est le leur, mais ils ont décidé de ne pas mobiliser leur jeunesse.
Ah bah quand même un peu, dites.
Non, pas complètement.
Ah oui, non mais dites.
Et ils l'ont toujours refusé, et encore aujourd'hui, ils espèrent avoir suffisamment
Attendez,
de volonté.
Tous les hommes sont obligés de rester en Ukraine, ils sont mobilisables à partir de 25 ans.
De 25 ans, mais de 18 à 25 ans,
ah bah oui,
ans,
mais
ils n'ont
attendez,
jamais mobilisé.
Guillaume
Ancel, et aujourd'hui, il manque. Oui, mais ce sont ces hommes-là qui se sont battus pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
Ouais, et bah c'est un mauvais souvenir.
Un souvenir épouvantable.
Bah oui.
Mais c'est un choix des Ukrainiens, je le respecte, mais simplement, aujourd'hui, il ne manque pas d'armes. Il oui. manque de bras. Je rappelle que l'Ukraine, c'est un pays de 30-35 millions d'habitants. En face, la Russie en fait 145. La différence, l'infériorité numérique des Ukrainiens était compensée par deux choses. Le fait qu'on leur a livré des armements relativement sophistiqués, mais surtout le fait que les Américains leur ont fourni un système de renseignement absolument remarquable qui leur a permis pendant 3 années de ne jamais être surpris par les Russes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu à protéger, par exemple, la frontière avec la Biélorussie. Mais c'est aussi pour ça qu'ils ont perdu la région de Koursk, dans laquelle, en août dernier, ils avaient été envahir quelques centaines de kilomètres carrés de la Russie. Mais ils avaient réussi pendant 7 mois à la conserver, parce que, en fait, le système de renseignement américain leur permettait de savoir exactement, non pas ce que les Russes faisaient, ce qu'ils allaient faire. Et dès le moment où Trump l'a stoppé, ils ont été obligés de dégager en moins de 7 jours, parce qu'ils étaient devenus quasiment aveugles. Aveugles face à Goliath, ça n'est pas tenable.
Oui, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent, la guerre c'est sale, la guerre c'est moche, la guerre c'est du sang, la guerre on meurt, la guerre c'est quand même quelque chose. Vous êtes leur représentant en quelque sorte, Julien, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ben voilà, je voulais simplement témoigner en simple auditeur, et je suis pas stratège militaire, mais quand j'entends effectivement ces débats, je trouve parfois que c'est un peu léger de dire que nous, Européens, nous devons être forts, nous penser comme forts, que la Russie est affaiblie économiquement. Moi, je constate quand même que la Russie reste très forte militairement, et malgré tout le soutien que j'ai pour le combat que les Ukrainiens mènent, la guerre reste une décision vraiment très lourde, et même avec une armée de métier, ce sont quand même nos frères, nos sœurs, nos cousins. Moi, j'ai des cousins qui se destinent à ce métier, et la guerre reste un combat très difficile, et une escalade risque de causer des morts, et on n'a plus été habitué en Europe à avoir autant de morts que les Russes ou les Ukrainiens en ont subi là ces derniers mois.
Et surtout avec un vrai sentiment, merci Julien, que c'est important, les morts c'est peut-être pas forcément le cas des Russes, c'est totalement le cas des Ukrainiens. Vous vouliez prendre la parole, Sylvie Matelli, mais vous répondrez aussi bien sûr Guillaume Ancel.
Et pour expliquer qu'on n'était pas dans cette logique d'entrer en guerre en fait, et de déclarer la guerre.
Mais rassurément, on ne l'est toujours pas.
Oui, tout à fait, et c'est vraiment pas le but. Ce dont il est question, c'est une force de réassurance, c'est-à-dire une force qui serait des soldats européens qui seraient déployés en Ukraine pour assurer le cessez-le-feu. Et il est bien évident que ces soldats interviendraient en cas de violation du cessez-le-feu et de manière extrêmement encadrée en cas de violation de cessez-le-feu par les Russes.
Oui, d'accord. Tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, cette fameuse force de réassurance n'existe pas.
Et tant qu'il n'y a pas de violation de cessez-le-feu, les forces sur place en Ukraine n'interviennent pas non plus. Et on peut espérer que les forces qui seront déployées auront les moyens, les capacités et la possibilité d'intervenir de manière extrêmement ferme, comme l'a expliqué Guillaume Ancel tout à l'heure, si jamais le cessez-le-feu est violé, d'aller détruire les avions en vol ou autre, pour que ça ne se reproduise pas.
Guillaume Ancel,
oui,
on n'a pas cette culture, c'est compliqué.
En écoutant la question de Julien, je me rends compte que je dois passer pour un espèce de va-t-en-guerre.
Oui, c'est comme ça que vous traitez les auditeurs, là, que je vois passer.
Oui, c'est intéressant parce que je déteste la guerre plus que tout le monde, sachant que j'ai participé à 4 guerres. Et j'ai traversé, accessoirement, 3 génocides. Alors je suis de la génération qui croyait au plus jamais ça. Donc, pour moi, le propos, c'est de l'éviter à tout prix. C'est justement d'éviter un jour d'être en guerre, une guerre qu'on n'aurait évidemment pas souhaitée, mais on ne peut pas éviter la guerre avec des bonnes paroles. Pardon, mais si on s'était opposé dès le départ, encore une fois, à la Russie de Poutine, si on lui avait montré un tout petit peu de force, il ne se serait jamais attaqué en nous. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en guerre, on est menacé par Poutine? Je rappelle que Poutine, en 3 années de guerre, nous a menacé 130 fois d'attaques nucléaires. Ça, c'est pour tous ces extrémistes qui nous expliquent qu'on n'a jamais été menacé par Poutine. Je ne savais pas qu'une menace nucléaire, c'était une menace en l'air. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce que nous, on réagit? Est-ce qu'on continue à se regarder le nombril et à se faire croire qu'on est exempté de guerre? Ou est-ce qu'on dit, on doit être fort pour dissuader les autres de nous attaquer? Je rappelle juste une chose, c'est que pour les Français qui n'ont plus aucune culture militaire, ces dernières années, on a participé à 34 guerres. Mais on ne l'a jamais dit, sauf pour la guerre en Ukraine. Ce n'est pas qu'on a été exempté de guerre, c'est qu'on s'est tu. On s'est tu parce que l'armée a été élevée dans la culture du silence et que la société ne lui parle plus en France.
On a, Sylvie Matelli, pardon, une question, pas une question d'ailleurs, une remarque de John qui dit ceci, est-ce que ce ne serait pas le moment d'une refondation d'une Europe resserrée autour des acteurs qui ne sont pas tous sous influence des États-Unis ou de la Russie pour se fédérer davantage et diminuer le pouvoir de blocage d'acteurs qui ne seraient pas pro-européens? C'est ce que nous dit John. Je voudrais compléter sa question en vous demandant s'il n'y a pas de, je ne sais pas si c'est de nouvelles alliances, mais en tout cas de nouveaux groupes à créer en Europe, parce qu'on les voit bien se dessiner aujourd'hui, ce sont les groupes qui ont une frontière ou qui sont très proches. Donc la Pologne, une partie des Pays-Baltes, on peut regarder du côté de la Roumanie avec la Moldavie devant. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer, non pas une géographie, mais en tout cas des groupes dans l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui?
Alors il y a déjà beaucoup de choses, hein. Il y a déjà beaucoup de coopération, il y a déjà tant industriel que militaire d'ailleurs. On travaille dans le cadre de l'OTAN ou pas, on travaille déjà énormément ensemble. La difficulté au niveau européen, c'est, et au niveau Union européenne, j'entends, elle est double. La première, c'est que les institutions européennes n'ont pas compétence en la matière. Ce sont les États qui sont souverains sur la question militaire. Donc ça veut dire qu'on se retrouve face à 27, si on parle des pays membres de l'UE, voire plus si on intègre le Royaume-Uni et d'autres pays qui seraient volontaires. Donc bien évidemment, ça complique un petit peu la tâche. Et puis la deuxième difficulté, c'est le fait qu'effectivement il y a des coopérations, il y a des travaux qui sont menés à géométrie variable entre certains pays, les pays baltes, les pays scandinaves et d'autres, et qui font que bien il est difficile de coordonner tout ça en fait et de rassembler tout ça. Mais il y a énormément d'initiatives. Et en même temps, on sait bien, et on s'en rend bien compte au travers de ces sommets, qu'il faut arriver à travailler tous ensemble pour être fort et crédible face à Vladimir Poutine.
Changer la géographie des alliances en Europe, Guillaume Ancel.
Oui, en fait, on découvre aujourd'hui que l'Union européenne, qui a été une construction remarquable ces dernières décennies pour assurer notre prospérité, est un club de commerçants. Et qu'elle n'a jamais été faite ni pour avoir une politique commune et encore moins pour construire une défense, c'est-à-dire diriger une armée. Et l'armée, la seule chose que peut faire l'Union européenne aujourd'hui, c'est une politique industrielle. C'est-à-dire de créer enfin des Airbus de la défense qui sont capables de produire des armements à une échelle industrielle pour équiper toute l'Europe. Mais sur le reste, l'Union européenne n'est pas compétente et tout le monde la contesterait. La vraie fragilité en réalité de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle a ces 30 structures. Je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne bien et qu'on sorte de ce mauvais débat sur les armes. Aujourd'hui, on ne parle que du réarmement, des centaines de milliards qu'il faudrait mettre sur la table. En fait, si on assemblait déjà nos moyens existants, on est la deuxième armée du monde. Mais regardez le système de renseignement, le seul dont on ne parle pas dans ces débats. Le système de renseignement américain, il est colossal parce que c'est une nation complète, un regroupement de 50 États, qui a construit un système qui est capable d'anticiper ce que va faire l'ennemi. Les Européens sont des nains sur le sujet. Pourquoi? Non pas qu'ils soient moins malins que les Américains, mais parce qu'ils ont 30 systèmes de renseignement. Et donc, tant qu'il y aura 30 systèmes de renseignement qui sont étanches, qui ne savent même pas se parler les uns avec les autres, on continuera à demander aux Américains s'ils peuvent nous donner du renseignement. Vous savez, pour les Britanniques, ça a été un choc terrible, l'affaire de course, quand les Américains ont décidé de stopper l'accès au renseignement. Parce que les Britanniques, y compris pour l'opérationnalité de leur sous-marin nucléaire, sont dépendants du renseignement américain. Et quand Donald Trump, d'un seul coup, a décidé de stopper cet accès, les Britanniques ont compris que leur assureur vie était défaillant.
Voici Eric qui nous appelle. Bonsoir Eric.
Oui, bonsoir. Moi, je voulais avoir votre avis sur le regard que Trump porte sur l'initiative européenne. Parce qu'on avait bien vu que dans les négociations qu'il a entamées, le seul but qui était important pour lui, c'était que le commerce continue. Et on se rappelle de la phrase, on croit se battre pour la patrie, on se bat pour des industriels.
C'est une bonne question, celle d'Eric. Alors on sait du mal, c'est compliqué de sonder l'âme de Donald Trump, d'autant que c'est très changeant. Mais est-ce qu'on a une idée de la manière dont il nous voit faire, là?
Bah, je Je pense que il ne s'y attendait pas. Je pense que la succession de réunions et de sommets montre une détermination. Les annonces au fur et à mesure, y compris de force de réassurance, sont des annonces qui semblent prouver en tout cas la détermination des Européens à enfin prendre leurs responsabilités face à la guerre. Et d'ailleurs,
qu'ils pensaient exactement comme les Russes ne pensaient pas que les Ukrainiens se défendraient. Vous pensez que les Américains diraient, de toute façon, les Européens, comme ils peuvent rien faire sans nous, ils vont devoir plier eux aussi.
Tout à fait.
Il a raison, on ne peut rien faire sans eux.
Non, c'est clair, mais je pense qu'il était dans cette optique-là. Ce qu'il avait peut-être mal appréhendé aussi et qui le force finalement à tenir compte de ce qui se passe en Europe, c'est son opinion publique, comme ça a été dit tout à l'heure par Guillaume Ancel. C'est qu'il a quand même, il y a une partie de l'opinion publique qui ne comprend pas le rapprochement avec Vladimir Poutine et une autre partie de l'opinion publique qui soutient encore Zelensky et qui a été profondément choqué par cette humiliation dans le bureau ovale. Donc ça, il est obligé d'en tenir compte et finalement, les Européens ont réussi à relativement bien surfer sur cette dimension-là et sur cet aspect-là, obligeant Donald Trump à ralentir, voire à rétro-pédaler sur un certain nombre de choses.
Sauf si le deal est déjà fait, Guillaume Ancel, et qu'on sait de toute façon ce qui sortira des négociations en ce moment.
Moi, j'ai vraiment pensé, à cause de sources qui sont proches de Trump, qu'il avait dealé avec Vladimir Poutine. Et je suis intimement convaincu qu'il en était persuadé. Parce qu'il avait discuté à plusieurs reprises avec lui que le 12 février, quand il annonçait qu'il allait lancer des négociations immédiates, en fait, on savait que les négociations étaient pliées, qu'il avait trouvé un accord avec Vladimir Poutine. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il ne parle pas le même langage. Et que là où il pensait que Poutine allait accepter un cessez-le-feu, eh bien, il voit maintenant un homme encore plus vicieux que lui. En réalité, Trump est très opposé à la guerre. On l'a vu lors de son premier mandat, il estime que la guerre, c'est un bad business, et c'est mauvais pour le business. Mais son problème, c'est qu'en voulant éviter la guerre, il crée le chaos à peu près partout dans le monde.
Vous voyez, on vous a beaucoup traité de va-t-en-guerre, Guillaume Ancel, sur le groupe WhatsApp, mais là, on a Clément à l'instant qui vient d'arriver et qui dit « Guillaume Ancel a raison, il faut que les Français arrêtent de regarder ailleurs comme si l'attitude de la Russie était une anecdote ». Donc voilà, on va pouvoir vous allez pouvoir les inviter à boire un verre, les deux.
Je le remercie, Clément.
Merci beaucoup, merci vraiment, merci à tous de vos nombreuses questions, je ne pars pas sans remercier. Pierre de Certaines, Amaury Baucher et Iris Vertanessian, la programmation pour cette jolie semaine du 18-20. Philippe Lefebvre est le rédacteur en chef. C'est Thomas Langlin, le réalisateur. Ryan Saibi est au site et à la doc, à la technique ce soir. Il y avait Ludovic Asselot et Arnaud Caillé. Pareil qu'on les appelle les René et René, ma foi. Allez, la question des petits bateaux, c'est celle de Zélie, qui a 9 ans.
J'aimerais savoir si l'artichaut est un fruit, un légume ou une fleur, autre chose. Merci, au revoir.
Quelle jolie question, réponse dans 3 minutes.